en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Canal Académie a le grand plaisir de vous inviter à suivre la troisième émission de la série en quatre volets intitulée « Le mois de Simone Veil ». Simone Veil, personnalité de la vie politique française, qui a été pendant plusieurs années plébiscitée par l'opinion française en tant que première personnalité politique préférée des Français. Simone Veil occupe désormais, parmi les immortels, le 13e fauteuil de l'Académie française. Invitée par Maurice Druon et François Jacob, Simone Veil présenta sa candidature à l'Académie française au fauteuil de l'ancien Premier ministre Pierre Messmer. Le 20 novembre 2008, Simone Veil est élue au premier tour de scrutin. Madame Veil, bonjour. Vous êtes donc devant les micros de Canal Académie, qui a l'honneur et le plaisir d'enregistrer plusieurs émissions concernant votre vie, votre parcours, parcours et vie que vous avez déjà confié aux pages de votre livre intitulé « Une vie » paru aux éditions Stock, un ouvrage qui fait d'ailleurs l'objet, nous le signalons, d'une nouvelle édition, cette fois en livre de poche. Donc, vous retrouvez ainsi à l'Académie française, sous la coupole, quel sentiment, quelle réaction suscite au fond de vous cette récente élection ?
Je dois dire que c'est une chose à laquelle je n'aurais jamais pensé. J'ai eu une vie très, très diversifiée dans ces occupations. Ça s'est toujours un peu trouvé comme ça. Mais en même temps, c'était dans une certaine ligne qui est restée toujours sous-jacente, c'est-à-dire le fait que j'étais magistrat. J'avais choisi cette carrière.
Et qu'est-ce que vous en attendez de cette vie académique ?
Je ne sais pas comment, je n'ai pas encore assisté.
Voilà, exactement.
Je ne sais pas encore comment ça
participer
se passe.
Participer à des sessions de travail.
Tout le monde me dit que c'est passionnant, je le crois d'ailleurs. Les gens sont très différents. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. C'est Hélène Carrère d'Encausse qui m'en a parlé la première. Et avec beaucoup de gentillesse, je lui avais dit, par exemple, j'ai dit, vous savez, moi, je ne ferai pas de visite.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, si on me veut, on me veut. Si on ne me veut pas, on ne me veut pas. Bon, elle savait que je ne ferais pas de visite.
Madame Veil, vous êtes née Simone Jacob le 13 juillet 1927, c'était à Nice. Vos parents étaient, dites-vous, profondément attachés au principe de laïcité. Vous passez votre bac à 16 ans, en mars 1944, et vous écrivez d'ailleurs dans votre livre de souvenirs « Une vie ». Il est vrai qu'en ce début de l'année 1944, la population était de plus en plus convaincue que les rapports de force commençaient à s'inverser et qu'un jour ou l'autre, le débarquement des Alliés sonnerait le glas de la domination allemande. Mais en 1944, la Gestapo redoublait les contrôles et la traque. Nombre d'entre nous en firent les frais. Début de l'année 1944, en effet, la jeune Simone Jacob que vous êtes passe les épreuves du bac. Vous avez 16 ans, examen réussi. « J'avais rendez-vous, écrivez-vous, avec des amis pour fêter la fin des examens. Je m'y rendais avec un camarade lorsque soudain, deux Allemands en civil nous arrêtèrent pour contrôle d'identité. L'horreur commence. Simone, sa mère, sa sœur Milou et son frère Jean sont arrêtés. Son père le sera aussi quelques jours plus tard. Sa sœur Denise, qui avait rejoint la résistance, sera arrêtée elle aussi et déportée en tant que résistante à Ravensbrück. » Simone apprendra plus tard que son père et son frère ont été embarqués ensemble pour Kaunas, en Lituanie, Nul ne sait le sort qui leur fut réservé. La famille Jacob est démantelée à jamais. Pour Simone, sa mère et sa sœur Milou, l'enfer prit les noms suivants. Drancy, Auschwitz-Birkenau, Probeck, Gleiswitz, Dora, Bergen-Belsen. La lutte pour la survie, un quotidien effroyable, tout ce qui ne peut pas se traduire avec des mots. Madame Veil, rescapée de la Shoah, vous militez dès votre libération en faveur de l'Europe.
Pour moi, ce qui a toujours été un vœu que j'ai fait très profondément, c'était qu'on se réconcilie avec les Allemands, parce qu'au fond, s'agissant de l'Europe, ce sont ces conflits entre Français et Allemands qui n'ont cessé pendant des siècles même de faire que nous avons connu la guerre de 14. Ensuite, moi, je me souviens très bien, mes parents se disputaient toujours à ce sujet parce que ma mère trouvait qu'on aurait dû chercher, après la guerre, un accord avec les Allemands, faire ce que souhaitaient un certain nombre de Français, et enfin, un certain nombre de grands personnages. Et que mon père disait, on ne peut rien en faire, il avait été prisonnier, il faut dire, pendant toute la guerre de 14, et qu'il était férocement anti-allemand. Et moi, je dois dire que même au moment où je suis rentrée de déportation, eh bien, un de mes plus grands souhaits, c'était justement que les Allemands aient un régime démocratique, que tout ce qui avait été fait par les nazis, tout ça, soit répudié complètement, et qu'on puisse effectivement créer l'Europe. J'ai toujours été une Européenne convaincue dès le départ. Je me suis mariée très, très vite, après mon retour de déportation, et mon mari avait tout à fait les mêmes idées. Nous avons toujours été vraiment des militants de l'Europe, d'ailleurs à tel point que nous avons même accepté de vivre, pu vivre en zone américaine d'ailleurs, puisque c'est encore l'occupation, mais nous avons vécu en Allemagne, à Wiesbaden, et nos enfants étaient à l'école, il y en avait deux à l'époque, et ils allaient à l'école allemande et apprenaient et parlaient comme des petits Allemands. Ils ont tout oublié, naturellement, mais enfin, c'est pour dire que c'était pour nous la seule solution pour l'avenir, que sans ça, on repartait dans des conflits indéfinis. Je dis ça à propos de l'Europe, qui est maintenant tout de même, après la chute du mur de Berlin, qui a été quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, moi, j'en ai un souvenir très précis, parce que la veille de la chute du mur, j'étais pour une réunion européenne à Barcelone. Il y avait un certain nombre de gens qui étaient venus du Parlement européen, et en même temps, on avait invité un certain nombre de gens d'Afrique, parce qu'à ce moment-là, les Africains étaient très associés à ce qui se passait en Europe. Et on est venu nous apporter un papier en disant « Demain, le mur tombe ». Et quand on a pris ce papier et qu'on l'a lu, ça a été tout à fait extraordinaire, parce que tous les Européens qui étaient là ont poussé des cris de joie. Enfin, c'était une sorte de folie. Et qu'au contraire, mais à la seconde même, les Africains ont compris qu'au fond, on se tournerait vers une Europe qui était encore très pauvre et très malheureuse, et qu'on les oublierait. C'est exactement ce qui s'est passé, mais c'est extraordinaire, parce que moi, je m'en suis souvenue comme ça. Et puis, je suis rentrée le soir même à Paris, et il y avait, je crois, quelques journalistes qui allaient le lendemain, qui avaient prêté un petit avion et qui nous ont invités pour aller à... Bon, donc, on a vu tomber le mur de Berlin. Ça reste des souvenirs tout de même très, très extraordinaires. Et ensuite, je crois que nous avons toujours été des militants importants de l'Europe. Et pour moi, ça constitue une des bases très importantes de mes vœux. Je me réjouis quand je me dis que maintenant, on va signer le traité de Lisbonne. Et j'espère que comme ça, au moins, l'Europe donnera un modèle d'un certain nombre de choses. Regardez Obama.
Oui, Obama, le président américain qui vient d'obtenir magnifiquement le prix Nobel de la paix pour cette année 2009.
C'est ça, c'est d'avoir des régimes démocratiques. Et il y en a tout de même plus. Quand on regarde ce qui fait aujourd'hui la paix, il y a même les Russes qui vont venir nous rejoindre un de ces jours.
Madame Veil, vous avez été ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, c'était de 1974 à 1979, première femme présidente du Parlement européen élue au suffrage universel, ce fut de 1979 à 1982, puis nommée ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, de 1993 à 1995, et membre du Conseil constitutionnel des années 1998 à 2007. Et vous expliquez, dans votre livre « Une vie », paru chez Stock, et aussi en parution en édition de poche, comment s'est faite votre entrée dans la vie politique française après avoir été magistrat dans le domaine carcéral, cela pendant 7 ans. Vous écrivez, page 171 de votre ouvrage, « Fin mars 1974, visitant le Népal en coup de vent avec Jacqueline Auriol, ayant toujours au cœur la nostalgie de la pénitentiaire, comment aurais-je pu imaginer que moins de 2 mois plus tard, je serais membre du gouvernement Chirac formé après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing ? Chacun savait que l'état de santé du président Pompidou laissait à désirer. Mon mari et moi avions apporté sans hésitation notre soutien au père de la nouvelle société, Jacques Chaban-Delmas. Parmi les 3 concurrents en lice, il nous apparaissait comme le seul authentique réformateur. Mais, déçu de la campagne de Chaban, je n'ai pas été étonné de sa défaite, sans pour autant cerner la personnalité de Giscard, que je n'avais pas eu l'occasion d'approcher. Jusqu'au dernier moment, j'ai donc été tenté de m'abstenir au second tour. Je me revois, me rendant au bureau de vote, accompagné de mon dernier fils. Il était trop jeune pour voter, mais lorsque je lui ai fait part de mon incertitude, il n'a pu retenir sa surprise. « Pour quelqu'un qui prétend avoir des idées, je ne te comprends pas. S'il y a bien une chose qu'on ne doit jamais faire dans une élection, c'est de s'abstenir. Choisis celui des 2 qui te convient le mieux, élimine celui qui ne te convient pas du tout, mais vote. » L'argument avait le mérite de la simplicité. J'ai donc voté pour Giscard. Par la suite, sur la base de malentendus divers et aussi parce que j'avais une image d'ouverture qui me situait plus à gauche que je ne l'étais dans la réalité de mes choix. Beaucoup de gens ont cru pouvoir affirmer que j'avais voté Mitterrand. J'ai bel et bien voté pour celui qui fut élu, sans penser un instant que j'allais rejoindre son gouvernement. Pendant sa campagne, le nouveau président avait assuré les Français qu'il appellerait des femmes au gouvernement. L'idée était d'ailleurs dans l'air du temps. Quelques mois plus tôt, à l'occasion des fêtes de fin d'année, un magazine féminin avait publié un retentissant article sur un éventuel gouvernement de femmes. J'en avais été bombardée Premier ministre. L'hypothèse était d'autant plus pittoresque que j'étais inconnue du grand public et que je n'avais jamais exercé le moindre mandat électoral ni assumé de fonction présidentielle. Survint l'élection de Giscard. Dans les jours qui suivirent, une rumeur, étayée cette fois, commença à se répandre, selon laquelle, parmi d'autres femmes plus en vue que je ne l'étais moi-même, le nouvel hôte de l'Élysée songeait à moi. C'était le Premier ministre, paraît-il, qui lui avait suggéré mon nom. J'avais déjà eu l'occasion d'approcher Jacques Chirac. Mon mari le croisait dans les milieux politiques proches du pouvoir. Et qui plus est, j'étais liée avec sa principale conseillère, Marie-France Garraud, magistrat comme moi. Nommée au cabinet du nouveau Premier ministre, je crois que c'est bien Marie-France Garraud qui a prononcé mon nom devant Jacques Chirac, qui, à la demande du nouveau président, cherchait des femmes nouvelles en politique. Un soir, que nous dînions chez des amis, la maîtresse de maison m'invita à sortir de table. Quelqu'un désirait de toute urgence me parler. C'était Jacques Chirac qui me demandait si j'accepterais, le cas échéant, de faire partie de son gouvernement. Il me pria de réfléchir et de le rappeler le lendemain. Le calme dont j'ai su faire preuve jusqu'à la fin de la soirée n'a pas manqué de surprendre mon mari. Pour dire le vrai, je n'avais qu'une très vague idée de ce qui m'attendait. La curiosité aidant, je n'ai guère hésité. C'est ainsi que je me suis retrouvée, dès le lendemain matin, ministre de la Santé. Pourquoi le président m'avait-il confié la santé, secteur administratif dont je n'étais pas, et c'est le moins que l'on puisse dire, une spécialiste, pensait-il déjà à l'IVG ? Thème sur lequel il avait pris des engagements, sans doute. Quoi qu'il en soit, j'étais la seule femme ministre. Oui, Simone Veil, votre nom reste attaché à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Vous avez présenté ce texte devant l'Assemblée. Grâce à vous, l'IVG est adoptée en France en décembre 1974. Et en votre qualité de ministre de la Santé, cette loi Veil autorise l'avortement en France.
Oui, mais vous savez, à l'époque, on était encore très marqués, et c'est pour ça que la loi est intervenue, sur le fait qu'il y avait chaque année au moins 300 ou 400 femmes qui mouraient parce qu'elles avaient voulu s'avorter elles-mêmes ou qu'elles trouvaient des femmes pour le faire. Et d'autre part, parce que c'était souvent très injuste, parce qu'en fait, on pouvait le faire en Angleterre, on pouvait aller aux Pays-Bas, on pouvait aller en Suisse pour toutes celles qui avaient de l'argent, et on pouvait même trouver un médecin en France pour le faire.
C'est une sorte d'hypocrisie.
Voilà, donc c'était une énorme hypocrisie. Et un certain nombre de femmes mouraient dans des conditions très dramatiques parce qu'elles acceptaient n'importe qui, quelqu'un dans le quartier qui était connu, qui pouvait le faire, mais qui en fait était tout à fait incapable de le faire.
Alors justement, par rapport à cette condition féminine, dans certains articles, vous annoncez comme franchement assez déçu, même si la condition des Françaises n'est pas la pire d'Europe, dites-vous, mais des femmes trop peu nombreuses à l'ENA, on n'applique pas la parité, ni dans les prud'hommes, ni dans les conseils d'administration, les rémunérations non plus ne suivent pas. Donc il faudrait peut-être une petite relance à cette condition féminine, qu'en pensez-vous ?
Oui, moi je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour les femmes, c'est d'ailleurs ce qu'elles pensent elles-mêmes en général. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui sacrifient soit la maternité, soit parviennent à des solutions. Mais quand on regarde absolument toutes les statistiques sur les fonctions qu'exercent les femmes par rapport aux hommes, il y a encore beaucoup à faire. Je sais bien que c'est le cas dans beaucoup de pays européens encore, mais là, je trouve qu'il faut qu'il y ait entre les femmes une très grande unité, une très grande, je dirais, un désir marqué de vouloir nous aider entre nous. On en a vu ce qui s'est passé lorsque un premier ministre a renvoyé du jour au lendemain un certain nombre de femmes. Immédiatement, nous avons réagi et nous avons décidé d'avoir un certain nombre de demandes qui ont été plus ou moins acceptées. C'est encore loin. Et on voit très bien dans les entreprises que les femmes ont toujours plus de difficultés, même si elles travaillent autant, même si elles apportent autant. Il y a des discriminations qui restent importantes.
C'est tout un long développement, c'est un processus qui a enfin, 70 ans, 70 ans, donc il faut lui laisser le temps de mûrir.
Il faut lui laisser le temps, oui. Enfin, vous savez, moi je me souviens très bien, il y a un moment, c'était dans les années 65, quelque chose comme ça, la vie économique demandait plus de travailleurs. Et je me souviens très bien qu'on avait mis en place à l'époque, on m'avait consulté d'ailleurs, comment faire pour que les femmes travaillent davantage. Enfin, s'intéressent davantage au travail et entrent dans la vie
professionnelle
et autres. Et c'est tout à fait extraordinaire de voir, je l'avais dit d'ailleurs à cette époque-là, j'avais dit, voilà, quand on a besoin des femmes, on essaye de les appâter, on essaye de les faire venir dans des bonnes conditions, et puis dès que ça va mieux, on les renvoie. Ça, c'était exactement le schéma qui avait été fait. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur ces questions à un moment, et ça m'avait d'ailleurs beaucoup intéressée, mais j'avais vraiment été très, très choquée de la façon dont les femmes étaient utilisées. Et après, quand ça a été moins bien, on les a renvoyées comme ça, absolument, sans s'occuper de ce qu'elles devenaient.
Et lorsqu'en période de chômage, vous savez, la formule, ben oui, mais les femmes arrivant sur le marché du travail prennent la place des hommes. Vous avez dû souvent entendre cette formule.
Oui, beaucoup. Alors, je dois dire quand aujourd'hui, ce qui se passe, beaucoup de femmes travaillent, mais elles cherchent d'ailleurs quelquefois à travailler à temps partiel, ce qui est toujours un peu difficile. Elles ont beaucoup plus de difficultés à trouver l'équivalence de ce qu'ont les hommes. Et il y a surtout, à mon avis, un problème un peu pour les femmes, c'est que les couples vivent beaucoup plus séparés qu'ils n'étaient. Donc, les enfants, quelquefois le père s'occupe aussi des enfants, ou en tout cas l'entretien pour partie, mais ça pose vraiment pour les enfants des situations quelquefois vraiment difficiles. Et ce sont toujours les femmes qui doivent se débrouiller parce que tout de même, dans la mesure où les hommes ne s'en occupent pas, ils ne donnent pas non plus pour l'enfant qu'ils ont eu les moyens nécessaires pour élever les enfants.
C'est une situation auquel le politique doit s'attacher pour trouver structure.
Je ne crois pas que ce soit le politique. Je crois que c'est en fait ce que la société elle-même génère et la façon, les articles qu'on lit là-dessus. je suis quelquefois très, très frappée par le désintérêt que peuvent avoir certains parents. Quelquefois, c'est la mère, d'ailleurs, c'est plus beaucoup plus rare. Mais sans ça, les pères, quand ils se... D'abord, beaucoup de couples ne se marient pas. Et quand ils sont avec une autre femme, eh bien, et qu'ils ont d'autres enfants, les enfants pratiquement sont privés de père. Quelquefois, c'est la mère, mais enfin, la vie est devenue beaucoup plus compliquée sur ce plan-là. Et en même temps, on constate que c'est en France qu'il y a le plus d'enfants aujourd'hui. Je crois que plus qu'en Irlande, ce qui est tout de même extraordinaire. Et moi, je dois dire que très vite, au moment où il y a eu la loi sur l'IVG que j'ai soutenue et que j'avais présentée, le président de la République de l'époque m'avait dit « il faut faire maintenant quelque chose pour la famille ». Et j'étais tout à fait de son avis. Et c'était juste quand les décisions étaient prises, au moment où la loi était discutée, j'ai demandé un jour, c'était la veille de Noël, je demande à tous les gens, je demande à l'huissier qui était là dans le truc, tous les gens de mon cabinet, etc. Et je demande à tous, qu'est-ce que vous faites ce soir ? Et bien tous, ils étaient en famille. C'est-à-dire que le 1er janvier, c'était la fête, mais l'autre, c'était la fête religieuse ou pas, mais c'était Noël, on le fêtait en famille. Et donc, je n'ai pas été du tout étonnée quand on montre qu'aujourd'hui encore, la famille française, même si elle n'est pas mariée, en définitive, elle se tient tout de même très bien et qu'elle reste quelque chose de très, très important.
Ce sens de la famille, vous l'avez toujours eu, ce sens de la famille, malgré les épreuves de vos premières années ?
Oui, c'était, je dirais qu'au contraire, d'avoir une famille, c'était ce qui vous permettait de survivre. Nous nous sommes mariés très très jeunes, mon mari et moi. Nous faisions tous les deux nos études, nous sommes connus dans la première année où nous étions à la fois à Sciences Po et dans le droit. J'avais la chance d'avoir des oncles et tantes qui m'avaient accueilli autour des déportations. Ils étaient tous les deux étudiants et on a eu des enfants très jeunes. Très jeunes et aujourd'hui, c'est une joie parce qu'on a beaucoup de petits-enfants. On a même un certain nombre d'arrière-petits-enfants. Il y en a un qui est en route et un de plus. Et d'abord, tout le monde s'entend très, très bien et puis que c'est tout de même la joie de vivre d'avoir des enfants. Je suis pas de voir que la France, justement, aujourd'hui, est tellement le sens de la famille et qu'on fasse beaucoup de choses. Quelquefois, on pousse un petit peu, même on trouve qu'en France, on en fait trop, que ça coûte très cher, etc. Ça, ce n'est pas les Français, en général, qui pensent ça. Je crois qu'il y a là une marque importante de la bonne santé de notre pays sur beaucoup de points. Voilà, on se critique beaucoup, mais qu'en définitive, quand on va chez les autres, c'est souvent moins bien. Enfin, je trouve que cette volonté qu'on a eue, même justement, des gens comme moi, juste au retour des déportations, de penser qu'il fallait se réconcilier avec les Allemands, je trouve aussi que cette place donnée à la famille est très, très importante, même si les gens ne sont pas mariés. Je trouve qu'il y a un équilibre de vie et la seule chose ce qui me soucie le plus aujourd'hui, c'est qu'il y ait des gens qui sont encore dans les banlieues difficiles, des situations...
Vous avez eu ce contact avec le terrain des banlieues, vous en parlez, Marseille, je crois.
Oui, j'ai été à Marseille.
Et puis vous parlez de la Guadeloupe aussi.
Le maire de Marseille me disait, oh, écoutez, il y a des mouvements quand même, il n'y allait pas. J'ai eu ça d'ailleurs aussi à la Guadeloupe. Et il me dit, n'y allez pas, vous risquez d'eux, etc. J'ai dit, si, je suis nue. Mais les gens m'ont invité chez eux, etc. Je crois qu'il y a des regards différents, mais j'étais à plusieurs reprises comme ça, où la police a toujours un peu peur, vous allez être bousculé, les choses se passent bien.
Et donc, vous l'expliquez comment ? Quand on vient avec un esprit d'ouverture, un esprit de communication, les choses se passent et... Je veux dire, même dans les quartiers les plus difficiles ou les quartiers chauds.
Oui, j'ai été beaucoup dans les quartiers de banlieue plus récemment, alors effectivement.
Cela a pris une autre allure, vous pensez, une autre conjoncture ?
Je pense, si vous voulez, que les écarts de situation sont tellement grands et puis de très grandes difficultés pour des jeunes qui, aujourd'hui, c'est là où les choses ont changé, c'est que nous avions beaucoup moins qu'aujourd'hui le fait des difficultés pour les jeunes de trouver des situations. Ça, c'est une... Et puis, ils ne sont pas toujours bien préparés et ils n'ont pas toujours non plus la possibilité donc, de trouver un de trouver un job.
Il faut canaliser toute leur énergie et leur donner la possibilité de
s'épanouir. Oui, mais c'est difficile. Et puis, sont souvent, les familles sont en difficulté. C'est là où on voit que quand la situation économique est meilleure, les choses sont plus faciles à gérer.
Alors, Madame Veil, quel est le sens de cette vie à travers toutes ces épreuves, à travers...
Le sens de la vie, pour moi, j'ai l'impression qu'il s'est mis en place de lui-même. Parce que je me suis trouvée dans des situations, je trouve que, bon, je suis rentrée, j'ai fait du droit, ce qui m'intéressait beaucoup. J'ai eu des fonctions qui étaient des fonctions que je n'ai pas tellement cherchées, mais qui correspondaient tout à fait à ce que je souhaitais. Par exemple, lorsque j'ai été magistrat à l'administration pénitentiaire, à une époque où on pouvait encore faire beaucoup de choses pour les détenus. Puis ensuite, j'ai eu la chance de travailler à la direction des affaires civiles, toujours au ministère de la Justice, et de participer à la réforme du Code civil, à un moment où vraiment ça a été très important, au Carbonnier, qui était... un extraordinaire professeur et inventeur, travaillait à ça, la direction des travaillait pour Jean Foyer pour rénover complètement le Code civil. Il faut dire que jusque-là, les femmes n'avaient même pas le droit d'avoir un compte en banque et que vraiment, elles avaient un statut dérisoire. Alors là, c'est lui qui s'en est beaucoup occupé. Il n'y a qu'une chose dont il n'a pas voulu s'occuper parce qu'il était contre, c'était l'adoption. Donc c'est moi qui ai fait, à l'époque, qui ai rédigé la loi sur l'adoption. Mais c'était donc un travail tout à fait passionnant et qui m'a amené en fait à être un peu, comme j'allais pas mal au Parlement pour être à côté du ministre, à connaître un certain nombre de personnalités, notamment Jacques Chirac, également tous ceux qui étaient là et qui certains m'ont remarqué. Et c'est comme ça que je suis entrée dans le gouvernement. Voilà. Alors, à la fois Jacques Chirac et aussi, d'ailleurs, le président de la République de l'époque.
Alors, vous disiez avoir fait du droit et avoir voulu participer à la société de cette façon-là pour défendre, pour apporter une aide. Ça a été une sorte de réaction à l'épreuve vécue, à l'épreuve passée, vouloir aider l'autre.
C'est difficile à dire. J'ai toujours envie de faire des choses concrètes, de dire il y a des situations... dans lesquelles on peut faire des choses. Et d'ailleurs, je dois dire que les gens, j'ai eu beaucoup de chance parce que les gens avec lesquels j'ai travaillé étaient tout à fait dans cet état d'esprit et que c'était toujours l'envie de se dire il faut améliorer les situations. Il faut dire que c'était au ministère de la Justice, un ministère qui n'était pas des plus avancés. Et avec à la fois des gens tout à fait remarquables, je pense à quelqu'un qui est connu dans les milieux juridiques, qui s'appelle Massip, et qui était vraiment très exceptionnel. Il y en avait un certain nombre, mais sans ça, il y avait aussi une absence de volonté de faire avancer les choses et autres. Il y avait tout un parti très traditionnel. Il y avait les deux, parce qu'il y avait à la fois le syndicat qui essayait d'aller très loin, et en même temps des magistrats qui étaient toujours très sur une certaine ligne, assez rétrograde. Mais j'ai toujours eu de la chance parce que j'ai pu travailler avec des gens de grande qualité. Et le fait aussi d'avoir été conseiller technique au cabinet de René Pleven, qui était quelqu'un de très remarquable, et ensuite de pouvoir entrer, d'être en quelque sorte choisi pour être ministre, c'était évidemment ces relations que j'avais eues à l'époque, notamment avec Giscard ou avec Chirac.
Cette année 2009, nous fêtons l'année de naissance de votre homonyme, Simone Veil, avec un W. Elle aussi s'est engagée dans le combat politique à sa façon, avec beaucoup d'enthousiasme, de passion, de folle passion, dirons-nous, et repoussant évidemment tout ce qui était du domaine de la compromission, mais refusant jusqu'en compromis. Est-ce qu'en matière de politique, le compromis n'est-il pas incontournable, ce compromis, en matière politique ?
Non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il soit incontournable. Je crois qu'il y a des choses où dépend. Les lignes sont différentes. Si vous êtes dans un parti politique, très ancré dans ce parti, vous ne pouvez pas le désavouer, ou bien alors vous partez. Je dois dire que j'ai eu une situation qui a été une situation mouvante. Elle a été une situation mouvante parce qu'on m'a demandé d'avoir une liste pour le Parlement européen. C'est ce qui s'est passé. J'ai une liste qui a fait un très grand score à l'encontre d'une autre qui, à l'époque, d'ailleurs, c'était expliqué hier à la télévision par le film sur Jacques Chirac, à l'époque où il était absolument contre tout ce qui pouvait être européen. Et il est arrivé comme ça au Parlement européen. Alors que moi, je suis arrivée, au contraire, avec vraiment l'idée du Parlement. Enfin, c'était une volonté. J'étais très contente quand on m'a demandé de tenir la liste, qui a eu beaucoup de succès, et de ce fait, d'ailleurs, de devenir présidente du Parlement européen, du premier Parlement européen, puisqu'auparavant, c'était des parlementaires désignés qui étaient en même temps au Parlement européen et dans leur propre Parlement.
Alors, vous citez les rares hommes politiques dotés d'une vision de l'avenir, deux noms, Mendès, France et Raymond Aron. Ce sont deux figures phares par rapport à votre...
Ce sont des gens qui ont pris une distance avec la politique, qui la jugent et qui ont beaucoup de responsabilités en eux. Et je trouve que ça est une chose, quand on veut faire de la politique, quand on en fait, ils l'ont fait sans être dans des partis, mais ils ont fait avancer la politique beaucoup, ils ont été des exemples.
Madame Veil, vous écrivez dans votre livre « Une vie » de très tristes lignes, chargées d'émotions. Voici ce texte. « Ma sœur Milou avait pu reprendre une vie normale et suivre des études de psychologie. Après mon mariage, nous étions restés très proches et continuions à beaucoup nous voir. Pour moi, Milou représentait comme une seconde mère, l'ultime lien affectif qui me rattachait encore à ce passé que nous avions vécu toutes les trois ensemble. Et c'est pourquoi, même si elle m'avait encouragée à cet exil, la séparation liée à mon départ avait été douloureuse. Nous nous écrivions chaque semaine, refusant que la distance physique nous sépare l'une de l'autre. Puis, ma sœur avait épousé un ami, lui aussi psychologue, et un petit garçon, Luc, était né. À ma grande joie, ils étaient donc venus nous voir à Wiesbaden pendant l'été 1951. Nos maris s'étaient tout de suite bien entendus, tandis que Milou et moi renouillons avec nos conversations sans fin. L'été suivant, nouveau bonheur, tous trois vinrent passer 15 jours chez nous à Stuttgart. Le séjour se passa merveilleusement bien. Luc, qui avait un peu plus d'un an, a fait ses premiers pas dans notre jardin. À la mi-août, tous trois repartirent dans la petite 4 chevaux que mon beau-frère venait d'acheter et dont il était tout fier. Le lendemain, alors qu'ils approchaient de Paris, ils ont eu un terrible accident de voiture. Milou est morte sur le coup. Son mari qui conduisait n'a rien eu. Immédiatement alertés, nous avons accouru. À l'hôpital, Luc, qui semblait ne souffrir de rien, est mort au moment où je le prenais dans mes bras. Une fracture du crâne non diagnostiquée lui a été fatale. Ce double choc m'a anéanti. J'éprouvais le sentiment d'une terrible injustice, d'un nouveau coup du destin qui s'acharnait à nous poursuivre. J'avais beau avoir un mari, de beaux enfants, mener une vie agréable dans cette Europe en pleine reconstruction, fréquenter des amis jeunes et enthousiastes, c'était comme si la mort ne pouvait s'empêcher de rôder autour de moi. Depuis la douleur de la perte de Milou et l'image affreuse de son fils, s'éteignant de façon brutale, ne m'ont plus jamais quitté.
Au moment de la disparition de votre sœur, Milou, dans cet accident de voiture, et de son petit Luc, est-ce que ce sont des événements comme ça qui font dire que l'homme est seul, quoi, qu'il n'y a pas de... que Dieu est mort, quelque part?
J'ai jamais eu ce sentiment.
Pas de sentiment de révolte contre...
Si, j'ai eu le sentiment de révolte. La mort de ma sœur a été... parce qu'elle était une seconde mère pour moi. Et puis qu'en plus, cet accident de voiture a eu lieu dans telles conditions. Ils étaient venus en vacances chez nous, ils sont partis, je revois. C'est tellement fort que je vois, j'étais sur la route, j'étais un peu triste qu'elle reparte, qu'elle ne puisse pas rester un peu plus longtemps. C'était une époque où on habitait l'Allemagne. Et je vois encore faire comme ça avec la voiture, etc. Ça, je me suis dit, c'est trop, je ne peux plus.
On survit, on continue.
On survit. Mais elle remplaçait maman quand j'étais petite. Quand mes parents sortaient le soir, elle avait la charge de m'embrasser. C'était elle qui venait me... Voilà, c'était vraiment une seconde mère.
Quelle est la valeur la plus chère que vous défendriez? C'est l'authenticité, la vérité?
La vérité, il y a des cas où on ne peut pas la dire, mais enfin, c'est quand même d'être essayé de... Je crois que c'est pas... Moi, je pense que si je me regarde, et d'ailleurs, les gens me le disent, etc. Les gens me le disent, je suis rebelle. Voilà, je suis rebelle, assez. Je regarde toujours comment les choses vont se passer. On vient, les gens m'écrivent. Alors, il y a des lettres que je trouve très bien, importantes. J'essaie de faire quelque chose, ce n'est pas toujours possible. Mais je trouve qu'effectivement, soit l'administration, soit n'importe quoi, ils n'ont pas été bien traités. Ou même simplement, je me dis, si j'écris une lettre à cette femme, c'est souvent des femmes qui m'écrivent, et que je peux un peu lui redonner du courage. Bon, je le fais. Mais je veux être libre. Je veux être libre. Je veux pouvoir... Et même ma première, je dirais que ma première réaction dans un certain nombre de cas, c'est dire le contraire.
Rebelle, vous parliez de votre esprit rebelle et votre rébellion aujourd'hui, elle s'inscrit dans quoi? Dans quel sujet essentiellement? Simone Veil se rebelle aujourd'hui contre quoi?
Ah ben d'abord, je trouve qu'il y a beaucoup moins de sujets contre une sorte de misère. Moi, je suis très inquiète en France pour ce qui se passe dans les banlieues. Et là, je ne suis pas rebelle. Je n'ai rien à proposer. Hein. C'est ça, je regrette que les choses soient comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est les familles qui sont concernées, c'est les bagarres, c'est aussi des gens qui sont en provocation les uns les autres pour des raisons religieuses. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai refusé de signer un papier... qu'on voulait me faire signer, ben voilà, justement, j'ai reçu un papier hier de quelqu'un qui voulait me faire signer un papier qu'il fallait interdire l'islam, qu'il fallait, parce que, je sais pas, il faut interdire l'islam, il faut interdire, je sais pourquoi, enfin, bon, je réponds même pas. C'est rare que je réponde pas, mais là, je réponds même pas.
Donc, une rébellion contre cette...
C'est une inquiétude.
Une inquiétude.
C'est une inquiétude. C'est une inquiétude pour ces jeunes aussi. Mais alors, en même temps, je trouve que par rapport à ça, je ne veux pas être pessimiste, je trouve par exemple que si on parle du passé et de la Shoah, de ce qui a été fait, je trouve que les professeurs se donnent beaucoup de mal. Je trouve que même dans des quartiers, moi j'ai été dans des quartiers très difficiles, avec des jeunes difficiles, souvent les femmes même maîtrisent très bien, et qu'au fond, il y a tout de même, en dépit de toutes ces difficultés, un certain nombre de choses qu'on essaye d'améliorer.
Mais c'est un problème qui fait partie de la sphère privée, la sphère familiale, mais le politique aussi a son mot à dire là-dessus. En ce qui concerne la sphère privée, la famille, on apprend quantité de choses dans notre vie, au cours de notre formation, mais devenir parent, c'est une chose qu'on apprend guère, qu'on n'apprend pas, qui peuvent se transmettre, si on a des parents qui peuvent nous le transmettre, c'est un gros problème.
Hein. C'est difficile quand les gens sont mal logés, quand c'est difficile quand ils sont... Bon, puis quand les couples sont vraiment... ne cherchent pas à arranger les choses, mais il faut bien voir que dans les banlieues, les choses sont...
Et vous qui avez été...
Alors ils sont mélangés, en plus ils sont pas toujours... Par exemple, quand on prend les gens du Mali sont toujours ensemble. Ils restent et le guide reste là. Bon, très bien. Alors ça, c'est important. Moi, je sais, quand j'ai été ministre, je me suis reposée pour partie sur des groupes de ce genre, en les encourageant, parce qu'ils ont...
Une structure familiale bien établie.
Mais pour les autres, c'est vrai, quand j'ai lu cette lettre d'hier qui m'a été envoyée, à laquelle en fait je ne répondrai pas parce qu'elle me choque beaucoup, c'est de dire il faut supprimer tout ce qui est religieux, c'est à propos des femmes qui voilaient. Alors il faut supprimer toutes les femmes. Je suis tout à fait contre les femmes voilées, mais ce n'est pas à moi faire une pétition. Alors elle me demande de signer une pétition pour faire... bon. Moi, décider ça. Je suis tout à fait contre. Elle veut qu'on supprime l'islam, etc. Je veux être insensée. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un des gros problèmes de notre société aujourd'hui, c'est de voir le désastre qu'il peut y avoir.
Et par rapport à ce problème des femmes voilées, qu'en pensez-vous? C'est de leur liberté de...
Non, je ne pense pas que ce soit leur liberté.
Quelque chose qui leur est imposé inconsciemment ou consciemment, mais dont elles sont l'objet, les marionnettes. Oui. Qu'est-ce qui vous passionne en dehors de votre participation à la vie de société, Simone Veil? Est-ce que
Vous avez un univers musical.
Je peux vous dire à un moment, non, la musique, c'est beaucoup plus mon mari, qui est très musicien, qui joue beaucoup de piano, qui y va beaucoup. Moi, je dois dire que je suis beaucoup plus attirée par la peinture. Je ne peins pas, mais j'ai beaucoup, beaucoup fréquenté, maintenant moins, parce que comme j'ai des tentations, j'ai déjà trop de tableaux. Voilà.
D'accord. Donc, entrer dans la peinture des autres. Mais vous-même, vous ne vous êtes jamais mis devant
non,
une
toile. Non, je suis très maladroite. Non, je suis très maladroite de mes mains. Non.
Alors, il y a un livre, Une vie, Simone Veil. Alors, le fait d'avoir entrepris ce livre, de nous avoir confié, d'avoir livré donc, à vos contemporains et à ceux qui vont suivre, aux générations futures, ces souvenirs de toute une vie. Est-ce qu'un autre livre viendra ou est-ce que c'est le seul? Est-ce qu'il vous a mis en route vers un travail, vers une réflexion que vous souhaiteriez? Et d'ailleurs, dans ce lieu académique, c'est peut-être le lieu, l'endroit pour continuer.
J'y pensais pas du tout. Et surtout, j'ai exclu, vu mon âge, je l'ai exclu. Et puis, il y a quelqu'un que j'ai reçu hier. C'est drôle que vous m'en parlez, là. Vraiment, c'est hier, c'est peut-être arrivé. Pour quelqu'un avec lequel j'ai travaillé d'ailleurs, sympathique, une maison d'édition avec laquelle je ne sais plus à quelle occasion, pour des articles, des choses comme ça. Alors qui me dit, vous devriez, qui essaye de me... Alors je n'ai même pas montré la lettre à mon mari, c'est-à-dire, mais je crois que je ne suis pas en état de... Bon, parce que maintenant, j'ai eu l'année dernière beaucoup de difficultés. Non, là maintenant, ça va. Je ne l'ai pas jeté quand même, la lettre, mais je ne crois pas.
Et qu'est-ce que vous souhaiteriez, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous transmettez dès à présent aux petits-enfants, aux enfants, s'il y avait une consigne de vie, quelque chose à leur dire, quelque chose pour les rassurer par rapport à tout ce qui les attend, à toutes ces épreuves de vie, est-ce qu'il y aurait, et pour ceux qui nous écoutent, un espèce de message de vie, un message d'ouverture, d'espérance, je ne sais pas, vers l'essentiel?
Je crois qu'en définitive, je suis même sûre, que la famille pour moi était tellement importante toujours, et les enfants, mes enfants, ont tellement transmis, on se téléphone tout le temps, tout le temps. J'ai un téléphone spécial dans ma chambre, c'est les enfants qui me téléphonent, même s'il y en a un qui est mort. Et ils ont tous ce sens de la famille. Mon fils aîné, il va au mois d'octobre, il a une très jolie maison dans la Sarthe, il invite tout le monde, alors on sera très nombreux. Et ils s'entendent tous très bien. Alors ils ont plus ou moins d'affinités entre eux, mais si je compte tout ce qu'il y a, comme ça fait, j'ai 12 petits-enfants et maintenant bientôt 5 arrière-petits-enfants. Ça fait
magnifique.
Ça fait beaucoup et ils s'entendent tous très bien.
Donc la solidarité dans le sens général.
C'est assez égoïste, mais ils sont pas égoïstes. Ils font tous des choses intéressantes.
Donc c'est
ceux qui sont en âge de faire des choses, les petits, évidemment.
Et vous pensez que cette solidarité apprise
ça les aide à vivre
dans la famille, elle peut être projetée à l'échelon du général et de l'universel. C'est quelque chose qu'on peut apprendre au sein familial. Et puis ensuite,
oui, on s'occupe des autres. Moi, je vois, j'ai d'abord, ce qui est tout de même assez rare, mais mes deux fils, ils ont 5 ans de différence. Ils sont tous les deux avocats, ils travaillent ensemble.
Donc, ils ont repris le flambeau. Maman n'a pas pu être avocat.
Moi, j'étais un peu... ils s'aiment beaucoup. Enfin, ils sont toujours beaucoup aimés. Mon fils aîné, il s'est toujours beaucoup occupé du psy. Beaucoup. C'est son fils. Moi, j'ai toujours dit, c'est son fils. Mais bon, parce que mon mari, c'est moi. Il a son assise bien assuré.
Les rôles sont bien distribués dans le couple.
Mais tout petit, quand je rentrais quelquefois tard, un jour ça m'est arrivé, je suis rentrée tard, je sonne, enfin que ça, j'avais pas ma clé ou je sais pas quoi, enfin je sonne, et je vois mon fils qui vient avec le petit, avec un truc au bras, il avait cassé la vitre d'une cuisine, enfin etc. C'est son frère qui avait pas 10 ans et qui l'a emmené à l'hôpital. Et c'est resté toujours comme ça. Le même fils a été très très malade l'année dernière, il y a 2 ans. Et son frère a été là tout le temps. C'est curieux, hein?
Non, c'est magnifique. Et c'est ça qu'il faudrait transmettre à la société.
Oui.
Que cette espèce de sentiment de
mais fraternel. Moi, je me rends compte que pour moi, de plus en plus, mais au fond, maintenant, c'est ma famille. Mais par exemple, le samedi et le dimanche, tous ceux qui veulent déjeuner avec nous déjeunent avec nous. Parce qu'on va dans des petits restaurants. Moi, j'ai pas envie de faire la cuisine, etc. Alors, si on est 10-12, même, ça m'est égal.
Et c'est magnifique, une grande famille. Alors, 60 ans de vie commune avec votre époux. Donc, avec, comme vous le disiez, des combats aussi pour pouvoir s'imposer en tant que femme. Votre condition féminine, vous avez dû l'éprouver, vous aussi, Simone Veil.
Non, je voulais avoir là. Il y a une chose que je voulais, une seule, c'était travailler.
Oui, c'est ça. Mais ça, il a mis une opposition au début.
Au début, oui. Mais ça, il a su qui...
Et quel mot est-ce que vous avez employé ? Vous vous en souvenez ? Comment est-ce qu'il a pu s'ouvrir à quelque chose qui était quand même un peu...
Ben, parce qu'on était jeunes et puis que j'ai accepté d'aller dans la magistrature et de ne pas être avocat,
Vous aviez 27 ans, quelque chose, 26, 27 ans, non ?
On s'est mariés, on avait 19 et 20 ans. Et on a eu nos deux premiers enfants très vite. Bon, donc... Il fallait s'en occuper aussi. Alors, ce qui m'a beaucoup aidée, je reconnais, ce sont mes beaux-parents. J'avais une belle-mère qui n'était pas comme les grands-mères d'aujourd'hui, qui ne travaillait pas, et qui, s'il y avait un pépin...
Était là, magnifique.
Elle était là, où elle venait prendre le bébé. Ce qu'elle a fait pour un des enfants, comme ça, qui a 3 mois a eu la coqueluche, elle est venue le chercher, ils habitaient Nancy, etc. Et c'est vrai que les grands-mères, ça n'existe plus. Mais sans ça, c'est vrai que...
Oui, par rapport à prendre la décision commune entre l'époux, l'épouse...
Mon mari, je n'essaye pas. J'essaye pas. Pour un certain nombre de choses, il veut ça. Voilà.
Vous avez baissé les bras, vous, la rebelle ?
Non, je n'ai pas baissé les bras. Pour lui, il n'y a que moi qui compte. Vous voyez ? Je vous dis ça.
C'est un sentiment peut-être masculin, bien partagé peut-être
les enfants, ils trouvent plutôt que... Non, maintenant qu'ils sont grands, parce que l'aîné, il a plus de 60 ans,
Mais c'est plutôt un domaine, un périmètre plutôt féminin, qui appartient plutôt à l'élément féminin que vous représentez, vous, dans le couple.
Oui, il y a les hommes dans la maison, il y a les hommes. J'essaye pas de changer le truc. Et pour mon mari, je suis sa chose. Voilà. Et ça m'est égal.
Une bien jolie chose.
Oui, non, je suis comme ça.
Et donc, c'est une mentalité masculine. Vous qui avez travaillé au niveau de la condition de la femme, vous pensez qu'il peut y avoir des développements, des choses
Là-dessus, j'ai toujours dit que jamais je ne céderai. Sur le travail.
Sur le travail.
Ah, oui.
Parce que le travail représente quoi pour la femme ? C'est la liberté.
Ah oui, la liberté. La liberté sur deux plans. La liberté financière. D'abord, et la liberté...
De participer, d'être dans la société. D'exister. C'est une liberté d'exister.
Absolument, c'est la liberté d'exister. Voilà.
Et ça, je crois que les femmes...
Celles d'aujourd'hui, elles le savent.
Elles le savent. Et elles ont compris.
Et puis on a des richesses différentes. Et d'ailleurs, pour un couple, moi je trouve que on apporte aussi quelque chose au couple.
Tout à fait. On s'inscrit de façon différente.
Pour en terminer sur ces problèmes, par rapport à je parlais de Simone Veil tout à l'heure, votre homonyme, mais on fête aussi un autre jubilé, c'est celui de Jean Calvin. Et chose que l'on ne sait pas sur le grand réformateur protestant que l'on fête à Genève en ce moment, c'est qu'on le redécouvre par l'intermédiaire de ses sermons. On l'avait beaucoup travaillé jusqu'à présent par rapport à son institution de la religion chrétienne. Et dans ses sermons, lui qui a prêché, qui a voulu apporter la bonne parole comme un prophète, comme le prophète Abraham, eh bien justement, il s'est beaucoup investi contre la pauvreté, qu'il jugeait mais insupportable. Pour lui, la pauvreté était un scandale et le statut de pauvre ne devait plus exister. Cette non-répartition des richesses, et pour lui, le riche n'est pas propriétaire, il est dépositaire. Il est dépositaire devant Dieu, devant le système, devant le monde de ses richesses, et il n'est là que de passage. Et que peu et beaucoup, et que beaucoup et peu, pour lui, c'était quelque chose d'inconcevable. Et il s'est battu pour, justement, et il s'est, tout comme vous êtes investi dans les problèmes de droit pour venir en aide, pour essayer d'améliorer la condition carcérale. Vous avez aussi travaillé pour les droits des malades mentaux aussi, qui n'étaient pas respectés ou que la législation ne protégeait pas. Donc, lui, s'est investi dans tout l'économique de son temps.
justement réglementant l'usure et pratiquant différents prêts. Et si on avait écouté, j'en parlais avec Michel Rocard ces derniers temps, si on avait écouté les propositions de ce calviniste, entre guillemets, la crise actuelle ne serait pas arrivée. Alors, un petit mot par rapport à cette crise, par rapport à ce peu d'individus qui possèdent beaucoup sur la planète, mais qui sont créateurs d'emplois, qui sont créateurs de richesses. Et, et c'est dommage que ces mondes ne communiquent pas, parce que si tout communiquait, je pense qu'avec une ouverture d'esprit, de compréhension, je veux dire, c'est pas regarder dans la cour de l'autre pour voir s'il a plu, c'est simplement que l'argent soit une espèce d'énergie qui circule entre tous.
Il y a tout de même déjà, si on considère, les 500 dernières années, si on prend simplement la France, avec les paysans, qu'on relie la Bruyère, on se dit aussi que les choses ont beaucoup changé, qu'on ne peut pas... Et moi, en ce moment, je trouve que le monde tel qu'il est, qu'on fait preuve de beaucoup de pessimisme, mais que y a tout de même, entre d'abord du fait... des droits de l'homme, enfin de travail qui a été fait par les organismes internationaux, ça a tout de même marqué, c'est tout de même pas complètement arrayé. Mais même, je dirais, même ces dernières années, il y a quelques pays qui sont en trouble, en véritable guerre, mais qui sont des guerres limitées pour la plupart. Et maintenant, bon, les choses entre l'Ukraine sont plutôt en train de s'apaiser dans des régions où les choses ont été longtemps très très difficiles. Alors, il reste toujours des groupes qui sont des groupes terroristes, mais pour lesquels il y a toute la volonté de lutter ensemble. Et puis, il y a aussi le fait que certains pays, comme la Russie, quand on voit la Russie jusqu'où elle va, vous savez, quelquefois, on se dit vraiment, qu'est-ce qui peut se passer? Non, ça s'arrange plutôt. C'est là où je n'ai pas tellement de pessimisme. Mais par rapport à mon livre, les choses se sont améliorées, sur ce plan-là, beaucoup. Il n'y a pas de grands conflits en ce moment dans le monde.
Israël-Palestine.
Alors, il y a Israël-Palestine, mais on espère tout de même, avec Obama, peut-être, etc.
L'Iran, la menace nucléaire.
Il y a l'Iran. Ben, en principe, c'est un peu disparu, l'Iran. Enfin, c'est tout de même, même par rapport, il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, il y avait plus de prospérité, mais il y avait plus de risques militaires. Regarder l'Amérique latine, les choses quand on pense. Alors je dis ça parce que j'ai été très souvent en Amérique latine avec des gens du Parlement européen pour rencontrer des gens qui étaient en révolte. Bon, et puis moi quand j'étais ministre de la Santé, on avait dit qu'on n'accueillerait plus de médecins. On a accueilli des médecins, beaucoup de médecins d'Amérique latine qui avaient fait d'ailleurs quelquefois leurs études en France et on les a acceptés très, très largement alors qu'on avait à l'époque considéré qu'on avait trop de médecins. Mais en gros, et tout de même, je trouve, regarder l'Amérique latine comme d'une façon générale, les choses vont mieux.
Oui, c'est un continent en pleine expansion.
Oui.
Et riche d'une énergie, oui. D'une jeunesse.
Oui. C'est pour ça que quelquefois, je me dis, ce qui est inquiétant, ce sont les périls. Moi, je suis pas très écologiste comme genre. Enfin, quoi que je m'en sois beaucoup occupée à un moment. Justement, membre de la Commission internationale sur les droits humanitaires, parrainée par les Nations Unies et présidée par le prince Hassan de Jordanie. Comité français pour l'environnement, président du comité pour l'année européenne du cinéma et de la télévision. C'est comme ça que j'ai fait tellement des choses très différentes. Présidence de la commission indépendante chargée par l'OMS d'élaborer un rapport sur la santé, l'environnement et le développement durable en vue de sa présentation au sommet de la Terre à Rio. Mais vous voyez là, par exemple, la commission était santé, environnement et développement durable. Puis ça se passait à Rio. J'y étais deux fois de suite à Rio parce que j'y étais pour présenter mon rapport là, de l'OMS. Ça avait été très intéressant d'ailleurs. Et puis je suis rentrée à Paris. Et quand je suis arrivée, c'était notre président de l'époque, le socialiste. Pourtant, je n'étais pas tellement bien avec lui. Et il m'a demandé de l'accompagner.
À Mitterrand, vous avez demandé vous avez demandé de l'accompagner, d'accord.
Je t'ai ni bien ni mal. C'est une histoire de jalousie, ça. parce que j'étais très amie avec un de ses amis, ça l'énervait. Les hommes ne sont pas mieux que les... Voilà. Et alors, là, c'était très intéressant, parce que c'était vraiment... Là, on travaillait...
Donc, quand les hommes et les femmes échangent, multiplient la discussion, c'est Jacqueline de Romy, qui est l'une de votre collègues ici à l'Académie.
Oh, puis elle a écrit un livre.
Oh, formidable.
Ouais, formidable.
Et
formidable.
Donc, elle dit qu'un mot, eh bien, le mot ralentit le coup, le mot... Si les hommes pensaient davantage à l'expression verbale, comment argumenter, comment conceptualiser, la violence perdrait du terrain, quoi.
Donc, ah oui, moi, ça, je suis sûre.
Par le verbe, par l'échange, par la communication.
Moi, je suis sûre, parce que comme j'ai participé à beaucoup, beaucoup de...
De colloques, de rencontres.
Ça, vraiment, je vois bien qu'on arrive à...
C'est le monde de demain que nous fabriquons.
Je vois la Conférence internationale de Rome sur l'alimentation et la santé, etc. Enfin, c'est vrai que c'est ça qui m'a...
C'est cet échange que vous allez aussi trouver au sein de cette académie, parce que c'est tout ce savoir-faire.
Oui, et alors en plus, l'académie, enfin le sentiment que j'en ai de l'extérieur, c'est qu'elle a des gens tout de même très, très différents politiquement, ou en tout cas comme pensée, comme etc., et que chacun, ça s'enrichit les uns les autres.
Formidable. Il y a un espace de liberté individuelle, mais une mise en commun de toutes les connaissances.
Oui, ça c'est très intéressant. Moi, je dis ça parce qu'en réalité, j'ai eu une carrière qui a été une carrière politique, mais au fond, dans laquelle j'ai été très peu politisée. J'ai très peu appartenu à des partis politiques.
La rebelle encore.
Je veux être libre. Je ne veux pas qu'un parti vienne me dire... Moi, je dis non, j'ai envie de dire ça, j'ai envie de dire ça, et de soutenir ça. Voilà. Mais je crois que d'ailleurs, c'est pas dans la vie politique, c'est pas une mauvaise chose. Et sur ce plan, mon mari, il aimait beaucoup la politique, il en a fait au centre, enfin, etc. Et puis il a créé un club. Il y avait des centristes et des socialistes. Enfin, des gens qui étaient tous capables. Alors, c'était une fois par mois, une réunion. Ça existe toujours, s'est trouvé trop vieux pour ça, mais je crois que ça existe toujours, ça marche toujours. Et c'est donc des gens qui se rencontrent et qui ne se rencontreraient pas autrement.
Et justement, le savoir-faire, votre savoir-faire, le savoir-faire des académiciens ici, etc., je crois qu'il y a une revisitation de cette matière grise de la personne d'expérience qui était, ces dernières décennies, repoussée parce qu'on était dans un jeunisme. Et on retrouve cette ouverture et cette communication avec ceux qui savent, ceux qui ont su, ceux qui ont fait une carrière et qui sont là pour aider les générations émergentes dans le
milieu
du travail.
Oui, parce qu'il y a eu quelques personnalités de gens qui ont vraiment joué un rôle important pour ça, auprès des politiques.
Parce que c'est très important de transmettre aux générations futures votre expérience. Et vous êtes comme des phares, des modèles pour ceux qui arrivent et qui n'ont pas encore vécu, qui ne sont pas passés par...
Plus pour les femmes.
Vous voulez dire que les femmes ont beaucoup besoin de modèles,
oui,
de repères.
Oui, mais en même temps, moi je vois celles qui m'écrivent, il y a beaucoup plus de femmes qui m'écrivent. Mais parce que je suis... c'est vrai que je suis très féministe.
Vous garderez toujours cette fibre féministe.
Oui.
Une fibre de rebelle.
Non, oui, de rebelle, absolument. Et puis de compréhension. Moi, je veux dire, je vais conclure là-dessus, si vous voulez bien.
Je vous en prie.
C'est dire que y a des femmes. Il y a eu des femmes pour dire les hommes et les femmes, c'est pareil. Je suis absolument contre cette idée. Absolument contre cette idée. Et je dis au contraire que si je me bats pour qu'il y ait plus de femmes, c'est parce que je pense non pas que c'est mieux, que c'est autrement. Et donc, la société qui est faite pour qu'il y ait des hommes et des femmes, eh ben, il faut qu'il y ait les deux. Et ça, moi, ça me frappe énormément. Énormément.
Égalité des droits, c'est ce qui est revendiqué, pour que le même travail soit rémunéré de la même façon.
C'est ça, mais qu'il y ait un certain nombre de femmes, parce qu'on prend des quotas, etc., enfin, on dit qu'on ne veut faire pas. J'ai dit, on a besoin de femmes. Et moi, je suis très frappée quand je travaille avec des femmes. Par exemple, quand j'étais au Conseil constitutionnel, eh bien, les femmes, souvent, elles avaient les mêmes points de vue.
Donc, le rôle de l'homme, le rôle de la femme, mais tout à fait complémentaire. Et
complémentaire, voilà, complémentaire. Je dis, on a chacun des
spécificités.
Des spécificités.
Et à conjuguer.
Et ça enrichit la société.
Madame Simone Veil, merci d'avoir accordé à Canal Académie cet entretien, qui est donc le troisième d'une série de 4 émissions qui vous sont actuellement consacrées sur nos antennes.